Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour notre nouvel épisode, nous allons commencer par un petit tour d'horizon des marchés, qui sera principalement dédié au mouvement lié, une fois de plus, à l'IA. Puis nous commenterons ensuite la performance du fonds, en passant en revue les meilleurs et les moins bons contributeurs de notre portefeuille sur le mois d'avril. Et enfin, nous conclurons par la revue de quelques résultats de sociétés de notre portefeuille. Et avant de laisser la parole à Charlie Wojciech, les petites recommandations habituelles. Ce podcast et l'ensemble de son contenu est le reflet de notre sentiment sur les marchés financiers et est diffusé à titre exclusivement informatif. En cela, il ne constitue en aucun cas une offre ou un conseil pour acheter ou vendre un instrument financier. Voilà, Wojtek, je te laisse la parole sur ces performances des sociétés de semi-conducteurs, entre autres.
Oui, on va en parler un tout petit peu. Bonjour. Bon, effectivement, le mois d'avril a été un mois compliqué, une fois de plus, ce qui, une fois de plus, démontre que nous sommes dans un métier qui apprend l'humilité assez souvent, et que effectivement, il y a des fois où on se sent très très mal. On n'arrive pas à s'asseoir. Et effectivement, ça a été clairement le cas du mois d'avril. Bon, avant de parler des marchés émergents, nous avons passé quand même en revue quelques éléments intéressants sur les marchés globaux et en particulier le marché américain. Ce qui se passe quand même des choses intéressantes et bon, force est de constater qu'il y a des voix où on a l'impression de ne plus rien comprendre, quoi, ce qui se passe. Donc, c'est une période un peu compliquée. D'abord, si on regarde quelques mesures de valorisation des marchés, de temps en temps, quand même, ça vaut la peine de s'y intéresser. Bon. Je pense que regarder aujourd'hui juste un simple price earnings ratio, prochain 12 mois, probablement n'a pas beaucoup de sens. C'est pas un vrai indicateur, c'est pas un bon indicateur aujourd'hui, puisque nous nous trouvons très probablement dans une bulle des profits, bulle des bénéfices, hein. On va en parler tout à l'heure. Il faut regarder d'autres indicateurs. Un qui paraît assez intéressant, c'est price to sales. Et par exemple, sur le marché américain, sur le S&P 500, si on regarde le price to sales, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est au plus haut historique, en tout cas depuis que la mesure existe, depuis une quarantaine d'années, à 3,6 fois, par rapport à 2,2 fois que nous avons pu observer à la fin de la bulle Internet. Donc on est déjà presque deux fois plus élevé que lors de la dernière bulle. Bon, il y a après le fameux indicateur de Buffett, la capitalisation boursière du marché américain divisée par le PIB américain. Là encore, on atteint de nouveaux sommets, on est 250% aujourd'hui par rapport à 150% en 2000. Hein, donc là, c'est pas tout à fait deux fois, mais on a déjà largement dépassé, si on regarde un peu une analyse plus longue, deux écarts types par rapport à la moyenne de cet indicateur. Hein. Et donc c'est quand même à chaque fois qu'on a touché historiquement deux écarts types, ça s'est très 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 mal terminé pour les marchés par la suite. Hein. Donc bon. Et puis, puisque nous sommes dans une espèce de bulle des profits, le fameux ratio Shiller, price earnings de Shiller, donc ajusté cycliquement, il a touché à nouveau 40 fois. Et là, en fait, la seule fois où il a touché 40 fois dans l'histoire de ce ratio, hein, en tout cas, d'après ce que nous on peut voir sur nos graphiques, sur nos sources. C'était en 2000 où il était aussi même un tout petit peu au-delà des 40 fois. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il a dépassé 30 fois, c'était plutôt assez mauvais par la suite. Donc, bon, Voilà, c'est, je pense qu'il faut s'attendre à ce que le marché soit un peu difficile par la suite et comprendre aujourd'hui l'excitation des investisseurs qui s'est traduit par l'utilisation à nouveau de la dette pour investir, par les volumes records de call options sur le S&P 500, par plein d'autres trucs, ou l'explosion des ETF à l'évier exposé au marché, au secteur des semi-conducteurs, mais tout ça ne traduit qu'une seule chose, c'est effectivement une espèce de manie où nous sommes en pleine bulle liée à un secteur. Alors, je reviens peut-être rapidement sur cette bulle des profits, puisqu'on a aujourd'hui atteint de nouveaux records en ce qui concerne la marge moyenne des entreprises américaines. On est aujourd'hui aux alentours de 13%. Et honnêtement, même en 2000, on a atteint 8-9% en 2000, hein, même si bon, la profitabilité faisait défaut à l'époque, mais on est en moyenne à des niveaux de profitabilité des entreprises américaines qu'on n'a jamais vu. Et franchement, nous, déjà qu'on était récemment à environ 12%, on s'attendait à ce qu'on corrige un peu, mais non, rien du tout, hein, ça continue de monter. Et ça continue de monter d'une manière très malsaine. Je vais développer tout à l'heure pourquoi, mais c'est essentiellement dû au secteur technologique. Si on regarde, par exemple, la profitabilité des entreprises des semi-conducteurs, on atteint aujourd'hui des niveaux de profitabilité de 50%, hein, donc de marge de profit net profit margin, 50%. Alors qu'on était plutôt historiquement, déjà qu'on était à 30, c'était bien. En général, on était plutôt à 20. Là, aujourd'hui, on est à 50. Bien évidemment, hein, on peut me dire que c'est normal, et ce qui est un tout petit peu dérangeant, c'est qu'on commence à entendre parler un peu partout que c'est la bonne norme, que les prix des semi-conducteurs vont maintenant rester durablement élevés. Et donc, bien évidemment, cette bulle des profits, des marges, elle impacte les révisions, la croissance bénéficiaire de l'année en cours, les révisions à la hausse des bénéfices, et donne cette fausse impression que nous sommes dans une économie de croissance, de forte croissance, ce qui permet de justifier effectivement la montée, les achats par les grands publics. Donc aujourd'hui, on sait que si on exclut les semi-conducteurs ou les Mag 7 ou ce qu'on veut, on va dire les quelques entreprises, tout ce qui reste a beaucoup beaucoup moins de croissance. Le niveau en absolu, là, on a parlé en pourcentage, mais le niveau en absolu aussi des profits générés par le secteur, il est juste absurde. Ce sont des chiffres grotesques. Trois sociétés, Samsung, SK Hynix et Micron, pour revenir un tout petit peu vers le monde émergent, vont générer 350 milliards de dollars de profits en 2026. 350 milliards, hein, c'est quand même des sommes incroyables. Je reviens, c'est que aujourd'hui la nouvelle thématique, c'est que l'industrie des semi-conducteurs n'est plus cyclique. Attention, elle n'est plus cyclique puisque maintenant elle est liée, elle est exposée à la demande structurelle qui est liée à l'intelligence artificielle, et donc ça va croître à perpétuité. Et une banque d'investissement américaine a récemment effectivement remarqué que aujourd'hui le consensus dans le segment des semi-conducteurs prévoit plus de 30% de croissance des bénéfices à perpétuité. À perpétuité. Hein, donc, quand même, ce sont des choses assez hallucinantes. Et à nouveau, pour revenir sur notre zone, chez nous, n'avons pas de Mag 7, mais on a quand même trois sociétés qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui. On a bien évidemment TSMC, qui est une excellente franchise. On a jamais contesté ceci. Quand on a commencé notre fonds en 2023, TSMC représentait un peu plus de 5% de l'indice MSCI Emerging Markets. Aujourd'hui, TSMC, une seule société, c'est 14% de l'indice de référence MSCI Emerging Markets. Et je fais juste une petite remarque, c'est que aujourd'hui, si nous comprenons bien, 60% de l'activité de l'ISMC, c'est l'IA. Sur les restes, on a les smartphones, l'automobile et IoT, donc Internet of Things. Et ces trois autres activités ont un peu de croissance, mais c'est une croissance à un chiffre hein, pour les trois segments. En fait, tout ce qui pousse TSMC, c'est tout d'un coup les 60%, ben, c'était 5-10% il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est devenu 60% de l'activité de TSMC. Et puis, écoutons ce que dit le management. Management, il dit il y aura 50% de croissance dans la partie IA dans les 5 prochaines années. Donc, effectivement, il y a c'est le niveau d'optimisme, moi personnellement, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est inouï, quoi. C'est inouï. Et maintenant, on a parlé de TSMC, 14% de l'indice. Si on ajoute Samsung Electronics et Hynix, donc deux sociétés essentiellement de semi-conducteurs mémoire, on atteint 25% de l'indice Emerging Markets. Donc trois sociétés, un quart de l'indice. Bon, je passe, par exemple, c'est assez intéressant de voir que Samsung Electronics arrête les activités liées aux home appliances, donc tous les produits électroménagers, parce que maintenant ils se concentrent sur les semi-conducteurs. C'est bien évidemment un très bon allocataire de capital, Samsung Electronics. Ils ont toujours fait tout en contrariant et comme il faut, hein, donc. C'est comme ça veut dire quelque chose. Deuxième point intéressant, c'est que les étrangers sont plutôt vendeurs de Samsung Electronics. C'est pas que ça soit particulièrement rassurant, mais ce qui pousse le prix des Samsung Electronics, des Hynix, donc en Corée, ce sont les locaux qui vraiment n'ont plus aucune limite. Et on sait très bien que les investisseurs locaux particuliers en Corée et institutionnels aussi d'ailleurs, ils ont tendance à accentuer les tendances. Ce ne sont certainement pas contrariants, et je suis gentil, je pèse mes mots ici. Voilà. Et puis, deuxième fait assez intéressant qui concerne cette fois-ci encore une fois TSMC, c'est que, tiens, c'est assez drôle parce que les régulateurs taïwanais a récemment autorisé les fonds domestiques à Taïwan d'augmenter leur exposition à une seule société, hein, qui était comme chez nous, hein, 10% maximum des fonds. Là, le régulateur taïwanais autorise de passer à 25% sur une position, mais bien évidemment uniquement pour les entreprises qui pèsent plus de 10% de l'indice, d'accord, de Taiex, plus de 10% du Taiex. Et surprise, surprise, il y a une seule société qui pèse plus que 10% du Taiex, c'est TSMC. Donc effectivement, on a créé en Taïwan une mesure qui permet à l'industrie d'épargne locale d'accroître l'exposition, parce que bon, c'est clair que tout le monde sous-performait, puisque avec cette régulation à 10% et TSMC représentant 45% de Taiex, c'était pas possible. Mais bon, bref, ça ne va pas dans le bon sens, quoi. Ça va pas, tout ça se passe alors que les valorisations sont déjà très élevées. Donc voilà. Juste pour peut-être rappeler, terminer rapidement sur cette partie, c'est que effectivement, s'il y a un boom dans le secteur des semi-conducteurs, c'est dû à l'IA. Ça c'est indéniable. Et je vais encore une fois rappeler le côté malsain et de plus en plus dangereux de cette économie circulaire hein, qui s'est formée autour de l'IA et créée une espèce de mirage, une espèce de mirage des bénéfices. Mirage des profits. On a déjà parlé de cette économie circulaire. Comment ça marche en pratique? C'est qu'on a un hyperscalaire, je ne vais pas donner de nom ici, qui prend une participation dans un LLM model, une société qui a développé un modèle LLM. Cette participation est financée par le cash au bilan et par la dette de plus en plus, cette prise de participation. Bon, le cash, il vient parce que souvent, ces hyperscalers sont bien sûr des gens, des tech américaines, qui ont cumulé des centaines de milliards dans leur bilan, sur les bilans, donc ils ont du cash et continuent finalement à générer du cash. Pour l'instant, hein, ça va plus durer si les CapEx continuent comme ça, mais pour l'instant, il y a encore la création du cash. Et suite à cette prise de participation, le LLM modèle, grâce à cet argent, prenant de la participation, achète des capacités de calcul auprès de hyperscalers. Dans Hyperscale, lui vont ses capacités de calcul. Et donc, grâce à ça, la société de LLM Model peut offrir son service à plus d'utilisateurs, parce que du coup, elle a plus de capacités, donc elle peut offrir à plus d'utilisateurs. Bien sûr, les utilisateurs ne payent pas, parce qu'on sait aujourd'hui que personne ou presque, il y a un petit pourcentage d'utilisateurs qui payent. Et ici, la société LLM Model peut montrer qu'elle fonctionne parfaitement bien, qu'elle a de plus en plus d'utilisateurs, que son modèle effectivement fonctionne de plus en plus efficace, et ça permet de monter la valeur de la société, la valorisation, pardon, de la société LLM. Mais même si bien évidemment maintenant les pertes s'accentuent, hein, parce que plus elle, faut être bizarrement plus elle a d'utilisateurs et plus elle fait des pertes. Et donc ça permet de lever encore plus d'argent lors du tour suivant. Voilà. Alors du côté de l'hyperscaler, qu'est-ce qui se passe? Mais hyperscaler, lui, il comptabilise l'argent qu'il a reçu, donc parce qu'il a vendu des capacités, donc il comptabilise l'argent comme revenu. Et puis, bien évidemment, il se dit, ah, tiens, il y a de la demande, donc je vais augmenter mon CapEx et je vais construire plus de data centers parce qu'il y a de la demande. Donc, et ce CapEx, je le finance avec du cash que j'ai toujours. Mais finalement, je vais prendre aussi de la dette parce qu'elle n'est pas si chère que ça et je prends de plus en plus de dettes. Et donc, voilà comment on recycle le cash qui repose au bilan et donc la dette en bénéfice. Qui est en quelque sorte, c'est juste un mirage de bénéfice, c'est pas un bénéfice de bonne qualité. Et ça permet bien sûr d'augmenter les valorisations de tout le monde, donc y compris les sociétés de semi-conducteurs. Voilà. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, quand on regarde, et là je reviens encore une fois sur les États-Unis, que le CapEx technologique représente aujourd'hui plus de la moitié de tout CapEx fait par les entreprises de S&P 500. Il y a aussi un peu de CapEx qui vient de la défense pour des raisons qu'on connaît. Il y a un peu pour l'énergie, un peu pour le secteur minier parce que tout d'un coup c'est les métaux précieux, les métaux rares, etc. C'est devenu stratégique. Probablement encore un tout petit peu en écologie. Et encore moins au stage des autres. Mais juste, ce qui est important de constater, c'est que l'argent qui reste sur la table pour les autres segments de l'économie, pour la vraie industrie, pour les consommateurs, pour sans parler pour l'éducation, pour les secteurs des soins de santé, la pharmacie et tout ça, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça que finalement les cœurs des économies aujourd'hui ne montrent pas beaucoup de croissance et nous on le constate aussi dans les économies émergentes, c'est que finalement il n'y a pas énormément de croissance. Lorsqu'on se promène un peu dans la rue, est-ce qu'on voit les entreprises qui sont vraiment exposées à la vraie économie, mais les croissances sont plutôt assez modestes. Voilà. Et donc ça peut-être ça explique aussi en partie un peu de faiblesse des performances dans tout ce qui n'est pas effectivement exposé à cette extraordinaire bulle IA qui quand même un jour ou l'autre va éclater. Et je laisse peut-être, désolé, j'étais trop long, mais désolé, je trouvais ça assez important de mentionner quelques faits ici. Je laisse peut-être Charles commenter un peu les performances.
Ouais. Et puis peut-être ça permettra aussi peut-être de mettre quelques chiffres sur les exagérations, voire les aberrations dont que Wojciech a expliqué un petit peu avant. On a eu un mois d'avril avec une très forte performance de l'indice et qui a été clairement tiré par le secteur IT et tout ce qui est lié à l'IA évidemment, qui était en hausse de 25% en dollars, avec notamment Taïwan plus 28, Corée plus 24. Là, je parle que du mois d'avril, parce que déjà sur la première semaine du mois de mai, on a vu, enfin la Corée est déjà en hausse de quasi 20% rien que sur la première semaine du mois de mai. En year to date à fin avril, on avait quand même Taïwan en hausse de 46% et la Corée en hausse de 65%. Donc sur 4 mois, dont 2 avec une guerre au milieu qui malgré tout reste quand même un événement géopolitique majeur et négatif. De l'autre côté du spectre, puisque ça a été comment s'appelle, un aimant à capital monstrueux et que, comme l'a expliqué Wojciech, bah, en dehors des investissements dans l'IA, le reste de l'économie est plutôt modeste. Bah, on a vu que la Chine était plutôt faible, donc à plus 2% sur le mois et moins 5% year to date. L'Indonésie a beaucoup souffert. Et moins 5% sur le mois. Évidemment, les secteurs de la consommation, les secteurs de la, que ce soit la consommation discrétionnaire, des services de communication, ont également souffert. Pourquoi est-ce que les services de communication ont souffert? C'est plus parce que bah et là c'est surtout lié à Tencent, mais pas que. Il souffre un petit peu de cette idée qu'il pourrait se faire disrupter par l'IA, un peu comme les logiciels dans les années à venir. À aujourd'hui, quand on regarde leurs résultats, enfin, notamment pour Tencent, les résultats sont excellents sur leur partie un peu historique, que ce soit de jeux, d'advertising. FinTech, ça se passe très bien. Simplement, ben, il y a un peu une peur des investisseurs sur les années à venir qui se fassent totalement disrupter par l'IA. Donc en fait, ben, ce qu'on a vu, c'est que nos positions, les positions du fonds ont été plutôt à la peine, étant liées plutôt à l'économie réelle, alors que tout le secteur de l'IA a fortement monté, et cela explique ben, le très mauvais mois relatif en avril. Quand on regarde un peu plus, enfin un peu plus en détail, ligne par ligne,
Peut-être je vais juste, avant que tu passes aux contributeurs, je vais juste rappeler que Corée et Taïwan aujourd'hui, ensemble, c'est plus de 40% de notre indice de référence. Hein. Donc c'est quand même, et franchement, c'est pour nous, c'est un vrai problème métaphysique ou presque, parce que nous ne considérons absolument pas ces deux pays comme des économies émergentes. C'est pas vraiment nos cibles en ce qui concerne la recherche d'idées d'investissement. Je veux dire, ce sont deux pays, deux petits pays par ailleurs, hein, mais deux pays qui sont effectivement marchent avec les exportations, qui sont des pays totalement développés en ce qui concerne les économies, dont les économies n'ont pas de croissance. Bon, là, Taïwan montre bien évidemment une croissance de PIB extraordinaire, mais tout ça est dû à nouveau à la tech. Donc effectivement, ça nous pose un problème puisque il y a 40%, plus de 40% de l'indice qui monte, alors que ça nous intéresse absolument pas, ces 40%. Donc voilà, c'est un peu problématique.
Non, complètement. Et puis, enfin, quand on regarde même individuellement, Taïwan et la Corée, c'est plus gros que le UK aujourd'hui en termes de market cap.
Oui, bien
Enfin,
sûr. Donc,
juste
les
pour.
exagérations sont un peu partout aujourd'hui. C'est pas, on regarde des choses par France et des mondes, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est hallucinant.
Ouais. Donc ouais, non, effectivement, c'est assez hallucinant. Et puis ce qui est assez hallucinant aussi, c'est quand on voit depuis le début de la guerre les évolutions de sur sectorielles. On voit, enfin, que ce soit sur le S&P, que ce soit sur les émergents, il y a 3 secteurs. En gros, il y en a 2 qui ont monté. C'est réellement tout ce qui est lié à l'IA, que ce soit semi-conducteur ou infotech, et l'énergie. parce que les prix du pétrole ont beaucoup monté. Tout le reste est en baisse. Et quelque part, c'est un peu logique que les marchés. Enfin, on parle quand même d'une guerre majeure avec un choc énergétique. Pour l'instant, considéré comme de court terme. Mais bon, ça fait déjà plus de 2 mois que ça a commencé, donc le court terme commence à durer un petit peu. Bref, quand on regarde au niveau des contributeurs, les contributeurs négatifs, on a BCE, la banque indonésienne. On va y revenir un petit peu après, parce qu'ils ont publié leurs résultats du premier trimestre, qui ont été plutôt encourageants. Mais la société a pas mal souffert dans le contexte indonésien d'un marché qui est totalement délaissé par les investisseurs aujourd'hui. On a également Globant, qui est une société argentine de services informatiques. Une très belle, enfin en tout cas historiquement une très belle franchise. Aujourd'hui, les investisseurs ont extrêmement peur que l'IA va les disrupter, enfin va les carrément les mettre out of business. Donc la société souffre. Veg sur lequel on va revenir, où il y a eu quand même très bonne performance les mois précédents et donc un peu de prise de bénéfice. Et Galaxy en Chine, qui est lié à la consommation et au casino à Macao, au loisir à Macao, donc là qui a plutôt souffert à cause de la baisse, un peu la baisse des vols en Asie suite à la hausse du prix du pétrole. Donc ça c'était pour les contributeurs négatifs. Dans les contributeurs positifs, on retrouve deux sociétés liées aux services pétroliers, China Oilfield Services et SLB. On retrouve Alibaba, qui a eu un petit rebond sur le mois de mars, lié plutôt à la bonne performance de leur division en cloud, notamment les prix du cloud qui commencent à monter sur le marché chinois, ce qui est très prometteur pour la suite. Et Midea, qui est la société chinoise qui fait des climatisations du petit électroménager et de la robotisation, qui continue de publier des très bons résultats, notamment sur les marchés internationaux et à l'export. Voilà. On n'a pas vraiment fait de mouvement sur le mois d'avril. Dans le portefeuille, il s'est pas passé grand chose que ce soit en termes de performance ou en termes de mouvement. Donc on peut regarder un petit peu les résultats des sociétés. J'ai mentionné BCE, donc Bank Central Asia, qui est le leader indonésien du système bancaire indonésien, pardon. Les résultats sont conforme aux attentes, et surtout je dirais conforme à ce qu'on peut attendre d'une telle franchise, qui peut donc vraiment jouer sur ses forces pendant des périodes un peu plus compliquées comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment en Indonésie. Et donc qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratique? Ça veut dire que ils restent assez prudents dans la croissance des prêts, avec une croissance de seulement 6% year on year, mais en contrepartie les dépôts, donc que ce soit sur les comptes courants ou les comptes saving accounts, ont augmenté de 11% au premier trimestre, qui est vraiment la preuve de la confiance que les Indonésiens ont vers cette banque-là. Et donc les dépôts aujourd'hui, qui est quand même une source de financement extrêmement bon marché pour eux, représentent aujourd'hui 85% des besoins de financement de la banque. En parallèle, les coûts opérationnels ont baissé de 10% grâce aux efforts continus de notamment de digitalisation. Et on voit les revenus liés aux commissions qui ont augmenté de 14%, qui montrent bien un peu le côté récurrent et résilient de la banque. On a maintenant une banque avec un ratio de loan to deposit de 77%, qui est vraiment extrêmement bas. Un ratio de capitalisation de Tier 1 à 26%. Là aussi extrêmement bien capitalisé. La banque est totalement prête pour une réaccélération quand elle le décidera. Parce que la demande est là, c'est eux qui décident en fonction du niveau de risque qu'ils voient, c'est eux qui décident d'appuyer sur l'accélérateur ou au contraire d'appuyer sur le frein des prêts. Et la banque est extrêmement bien préparée pour quand elle décidera de réaccélérer ses prêts.
Je vais peut-être juste ajouter ici, c'est que effectivement pour cela, il faut que les entreprises indonésiennes, mais ça concerne aussi d'autres économies, prennent la décision d'investir. Et rappelons-nous, rendons-nous compte peut-être que l'environnement ne facilite pas cette décision aujourd'hui. Vous avez un conflit majeur qui se déroule et qui a un impact, mais très 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 sérieux potentiellement sur le prix d'énergie. Et l'énergie, quand même, je dis que c'est la ressource, l'input quand même essentiel pour toute croissance, pour toute entreprise. Donc, quand vous êtes une entreprise, vous savez pas comment faire. Est-ce qu'il y aura assez d'énergie pour tel ou tel projet que vous avez en tête? Après, de l'autre côté, on n'arrête pas de vous marteler à longueur de journée que tel ou tel métier vont plus exister parce que l'IA va tout détruire. Donc effectivement, on est dans une, sans parler bien sûr d'autres types d'incertitudes, d'instabilité au niveau politique, géopolitique, qui a été créée par, on sait qui, entre autres. Donc tout ça fait que un peu partout, si ce n'est pas l'IA ou la défense, les investissements sont un peu en stand-by. On attend pour avoir un peu plus de visibilité, de clarté avec ce qui se passe dans le monde, tout simplement. Donc, là encore, on ne sait pas quand est-ce que BCA va pouvoir appuyer sur le bouton. Un jour, il pourra. Nous on n'achète pas pour les prochains 3 mois. C'est clair, on achète pour long terme. Et ici, grâce à toute cette pagaille qui s'est créée autour de l'Indonésie, etc., on peut, je pense, pour la première fois depuis très 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 longtemps, accéder à une très 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 belle franchise bancaire à un prix qui est plus que raisonnable.
Ah oui, complètement. On est à 12 fois les bénéfices pour aujourd'hui un rendement de dividende de 5%, un retour sur fonds propres de 22%. Enfin, c'est une excellente franchise qui avait plutôt l'habitude de se trader aux alentours de 20 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on est au-dessous de standard deviation en dessous de la valo historique. Donc, je dirais presque que le aujourd'hui BCA est à prix cassé. Et donc, ça serait quand même dommage de pas en profiter. Veg a également publié ses résultats. Donc, Veg, société brésilienne de moteurs électriques, transmission, génération, transmetteurs, transistors, tout ce genre d'équipements électriques. Les résultats ont un peu déçu, c'est-à-dire les résultats en absolu ont été un petit peu mauvais, un petit peu faibles, mais plus ou moins en ligne avec les attentes. Donc on a une progression du chiffre d'affaires en réal brésilien à -6%. Je précise en réal brésilien puisque malgré la devise brésilienne s'est appréciée de plus de 10% sur les 12 derniers mois et 60% des ventes se font à l'international et notamment pour la grande majorité en USD. Donc forcément, ça a un gros impact quand ils reportent leurs chiffres en réal brésilien. Et au-delà de cet impact monnaie qui aurait certainement ramené en fait les ventes stables d'une année sur l'autre, on a vu également une demande domestique très faible, notamment dans la division liée à l'énergie. Qu'est-ce que c'est pour eux? C'est tout ce qui est énergie renouvelable. Ce ne sont pas des comment s'appelle des producteurs, mais ce sont des intégrateurs de turbines électriques pour tout ce qui est les éoliennes et les panneaux solaires aussi, que ce soit pour les grandes fermes de panneaux solaires ou pour les individuels. Faut savoir que ce soit les éoliennes ou pour le solaire, le Brésil, en tout cas le climat au Brésil, permet d'avoir des résultats qui sont enfin extrêmement profitables, extrêmement intéressants. Il est extrêmement intéressant d'y installer ces équipements électriques. Cette faiblesse était très largement attendue. Ce trou d'air était très largement connu parce que ça fait déjà 1 an et demi qui communique dessus. Mais ce qu'on voit et qui est très rassurant, c'est que déjà le carnet d'ordre commence à se re-remplir. Donc que effectivement c'est une pression temporaire sur les ventes. On voit que la société est vraiment très bien gérée, puisque malgré les ventes en déclin, malgré la pression aussi sur les COGS, parce qu'avec comment s'appelle avec des prix qui ont des matières premières qui ont un peu monté, eh bien les marges se maintiennent, notamment grâce à un meilleur mix produit, grâce à des efforts aussi sur les dépenses. Et ainsi on voit que ce soit les EBITDA ou le net income suit la même trajectoire que les ventes à moins 6%. Et surtout que le return invested capital se maintient à 33%, ce qui est assez incroyable comme niveau pour cette société. Je rappellerai juste que en fait, enfin, on a initié la position l'année dernière, surtout dans la deuxième moitié de l'année, notamment parce que on s'attendait à ce trou d'air. Et que cette franchise, là aussi, un peu comme dans le cas de BCA en Indonésie, est l'une des plus belles franchises industrielles qu'on puisse trouver dans le monde émergent. Et que justement, ce trou d'air nous a permis d'avoir cette fenêtre d'entrée sur cette franchise, si on réfléchit non pas encore une fois sur les prochaines semaines, mais sur les prochaines années. Et pour l'instant, d'ailleurs, l'investissement reste très largement positif parce que justement on a fait plutôt attention sur la valorisation et sur le prix d'entrée. Et que le trou d'air dont mentionné, c'est pas un trou d'air de plusieurs années. On s'attend déjà à ce que les ventes réaccélèrent déjà à partir du deuxième semestre de cette année.
Ouais, non, c'est bon. Historiquement, ça a été une excellente entreprise, Veg. Ils ont rarement raté des choses, des grands trends industriels.
Ils sont extrêmement bien positionnés pour tout ce qui est électrification.
Voilà, en règle générale. Si l'électrification continue, bien sûr, qu'on pense plutôt, c'est pas certain, mais bon, probablement, ça va quand même continuer. Donc, bon, Veg, il est bien et en général, il voit les choses bien un tout petit peu avant les autres. Après, pour continuer avec les résultats, une autre société, China Russell Beer, que nous avons dans le portefeuille depuis le lancement, c'est le numéro un de la bière en Chine. Il faut admettre que pour l'instant, en tout cas, notre thèse d'investissement ici ne joue pas comme on le pensait. Parce qu'on a acheté CRB, China Russell Beer, donc parce que on se disait que avec la fin de Covid, les Chinois allaient sortir davantage, consommer davantage, aller plus dans les restaurants, etc. Et malheureusement, et donc finalement boire un peu plus de bière.
Comme ce qui s'est passé chez nous,
ouais. Oui, ça s'est passé dans beaucoup d'endroits effectivement comme ça, mais finalement pas en Chine, quoi. La consommation n'a pas tellement repris, ça on le sait. Les Chinois ont préféré d'autres dépenser de l'argent ailleurs, pas tellement en sortie resto. Et même s'ils sortent, ils ont trouvé des astuces pour éviter de payer ou acheter des bières premium ou acheter des bières tout court au restaurant, plutôt se faire livrer sur place, etc. C'est des choses un peu typiquement chinoises. Donc, ce qu'on a, c'est que effectivement, l'ensemble du secteur restauration ou bien alcool, bière en Chine performe pas très bien. Bon, CRB, il s'en sort grâce à Heineken, parce que je rappelle que c'est eux qui vendent Heineken en Chine, car Heineken est actionnaire, et que tout ce complexe, bière premium, et surtout Heineken, ont une croissance très forte. Hein. C'est, encore une fois, si vous regardez les derniers résultats de Heineken, le premier trimestre de l'année 2026, et vous avez les commentaires sur la Chine, vous voyez que Heineken croît toujours 20% en volume en Chine, hein, au premier trimestre. Hein, donc c'est très fort. Et Amstel, hein, qui est une marque bien évidemment un peu niche, 100% de croissance. Hein, des niveaux très bas, mais c'est quand même une très forte croissance. Donc tout ce côté premiumisation sur lequel nous avons compté, je dirais ça se vérifie, ça se confirme. Mais le reste du business, et ici il faut parler de bière, on va dire mainstream, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du moyenne gamme, bas de gamme, là il n'y a pas de croissance, et il y a même une petite déflation sur les prix. Et puis il faut dire que CRB a fait un investissement il y a quelques années dans l'industrie de baijiu, vous savez probablement l'alcool fort, phare, star de la Chine. Ouais, Kuei Chong Moutai est plus connu pour dans cette industrie, mais CRB voulait aussi faire quelque chose dans ce domaine, et malheureusement ils ont mis un pied dans un au mauvais moment, dans un producteur de baijiu. Pourquoi au mauvais moment? Parce que on a assisté à effectivement un peu de spéculation autour de cet alcool, beaucoup de stockage, les prix qui montaient beaucoup. En fait, les gens, certaines personnes en Chine ont commencé à considérer baijiu comme un produit d'investissement. On a acheté des litres et des litres, en pensant que, parce que chaque année, effectivement, les prix étaient montés de 15%, quoi. Donc c'était quand même extraordinaire. Et après, vous pouviez le voir. Bon, bref, ils ont mal acheté, ils ont mal payé, donc ils ont été obligés. Et ce business aujourd'hui marche moins bien parce que effectivement, il y a un peu trop de stock dans le système, les prix ne montent plus. Ce qui fait que la société a dû déprécier une partie de cette acquisition. Et en fait, le marché attendait cette dépréciation, hein, parce que le marché sentait que c'était pas bien. Et donc, en quelque sorte, ça enlevait une épine de pied de CRB. Et probablement, le chemin aujourd'hui est ouvert pour que éventuellement la société commence à performer. Il y a quand même des petits signes, des frémissements que les choses s'améliorent parce que au niveau de restauration en particulier, les chiffres sont meilleurs ces années. Et déjà en deuxième moitié de l'année dernière, ça commence à être un peu mieux. Voilà. Entre-temps, bon, qu'est-ce qu'on a? On a une société qui est net cash, donc qui augmente ses distributions vers les actionnaires, les dividendes montent. Pour l'instant, très conservativement, nous, on table sur une croissance à ce stade, ce qu'on appelle dans notre jargon mid-single digit ou high single digit. Allez, 7-8% de croissance au niveau des profits, plus 5% de yield sur le dividende. Donc ça me donne un retour quand même à des chiffres. Aujourd'hui, ça coûte, ça se paye 12 fois. Donc on pense pas être dans un endroit totalement déraisonnable ici avec CRB. Mais bon, force est de constater que ce n'est pas une société qui délivre une croissance qu'on espérait. Et Anta aussi, dans la consommation, c'est toujours un peu la même chose. Bon, Anta a eu une petite faiblesse en fin d'année dernière, et puis ils ont fait un trading update récemment, donc juste quelques chiffres, quelques indications en fait, en disant que bon, la marque éponyme Anta monte de high single digit. Fila, qui est la deuxième marque, donc c'est en autre 40%, je rappelle, c'est 40% Anta, 40% Fila, en gros, qui monte à deux chiffres, low double digit, ce que dit la société. Et puis les autres marques de Anta qui sont regroupées chez Amer Sport, hein, qui est cotation séparée aux États-Unis, où on a où Anta a une participation importante et où il y a plusieurs marques comme par exemple Salmon, dont les skis ou Wilson, dont les raquettes de tennis, et plusieurs d'autres. Là, on a une croissance de plus de 40%. Donc, c'est quand même ces marques, quand tu achètes un peu à droite à gauche, ont été un énorme succès. Voilà. Et là encore, on a une valorisation d'Anta aujourd'hui. Je parlais d'un chiffre, mais je pense qu'on est à 13-14% fois, pardon, sur Anta aujourd'hui. Et puis, quelque chose comme ça, oui. Et sur BYD, bon, peut-être on est déjà un peu long, on va peut-être commenter la prochaine fois. Bon, ce qu'il faudrait finir sur BYD, c'est que très très probablement on est en train de vivre les pires trimestres pour BYD, premier trimestre de l'année 2026 et deuxième trimestre de l'année 2026 probablement aussi, au niveau des ventes domestiques de BYD. Hein, l'export marche très bien, mais le domestique a été catastrophique pour des raisons qu'on peut peut-être commenter dans un de nos prochains podcasts ou rapports. Voilà. Donc, pour conclure, un mois très pénible, les marchés qui franchement nous laissent beaucoup de fil à tordre, et notre portefeuille qui performe pas bien dans cette configuration, mais selon nous, il est juste positionné pour affronter une correction lorsque les choses changent un tout petit peu. Mais bon, c'est clair qu'aussi longtemps que l'IA monte de 10% par semaine, ça va être compliqué. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les deux et surtout bon courage. Merci à tous, au revoir.
Au revoir.